Vous écoutez On lit pour vous.
Une simple prise de sang pour traquer le cancer. Un texte d'Alexandre Pellant-Cheng paru le 6 avril 2026 dans La Conversation. Une simple prise de sang pour détecter un cancer avant même l'apparition des symptômes. C'est la promesse de la biopsie liquide, une technologie en plein essor qui pourrait bouleverser le diagnostic, le suivi et la personnalisation des traitements oncologiques. Le cancer est aujourd'hui la première cause de décès au Canada. 2 Canadiens sur 5 développeront un cancer au cours de leur vie et 1 sur 4 en mourra. Chaque jour, près de 700 personnes reçoivent un diagnostic de cancer au pays. Selon la Société canadienne du cancer, les cancers les plus fréquemment diagnostiqués sont ceux du poumon, du sein, de la prostate et le cancer colorectal. Ces chiffres masquent une réalité essentielle. La survie varie fortement selon le type de cancer et surtout selon le stade au moment du diagnostic. Les données statistiques montrent clairement que les chances de survie diminuent à mesure que le cancer est détecté à un stade plus avancé. Ces données soulignent l'urgence de mieux détecter la maladie et surtout de la détecter plus tôt. Une prise de sang plutôt qu'un bistouri. C'est dans ce contexte que s'inscrivent mes recherches. En tant que professeur de génie des systèmes à l'ETS Montréal et chercheur principal à l'axe cancer au Centre de recherche du CHUM, je travaille sur la biopsie liquide, une approche qui vise à détecter le cancer à partir d'une simple prise de sang en analysant l'ADN libéré dans la circulation sanguine par les cellules tumorales. Contrairement aux biopsies classiques qui nécessitent le prélèvement d'un fragment de tissu de la tumeur, la biopsie liquide repose sur un geste simple et peu invasif. Une prise de sang suffit. Les avantages de cette approche sont une réduction de la douleur, des risques pour le patient et de la lourdeur logistique associée aux procédures hospitalières. De plus, la simplicité du test permettrait de répéter les analyses plus fréquemment. Enfin, contrairement à de nombreuses procédures diagnostiques, le prélèvement sanguin ne requiert pas d'installation spécialisée et peut être réalisé dans n'importe quel contexte de soins, qu'il s'agisse d'une clinique de proximité ou d'un CLSC. En médecine, on parle souvent de biomarqueurs pour désigner des indicateurs mesurables capables de renseigner sur l'état de santé d'une personne. Le dosage du PSA, antigène prostatique spécifique, utilisé depuis des décennies pour le suivi du cancer de la prostate, en est un exemple bien connu. Une élévation du PSA dans le sang peut signaler la présence d'un cancer, sa progression ou une rechute après traitement. Mais ce biomarqueur illustre aussi les limites de l'approche. Le PSA n'est pas spécifique au cancer et peut augmenter pour d'autres raisons, ce qui complique l'interprétation des résultats. Détecter l'invisible avant qu'il ne devienne incurable. La biopsie liquide s'inscrit dans cette même logique, mais à un autre niveau de précision. Plutôt que de mesurer une protéine indirectement liée à la maladie, elle vise à détecter directement les traces génétiques laissées par les cellules tumorales elles-mêmes. En ce sens, l'ADN tumoral circulant peut être vu comme un biomarqueur beaucoup plus spécifique, porteur d'informations sur la nature du cancer et son évolution. Plus une tumeur est petite, moins elle libère d'ADN dans le sang. Pourtant, c'est précisément à ces stades très précoces que le diagnostic a le plus d'impact sur les chances de survie. Mon objectif est de détecter ces signaux extrêmement faibles, parfois bien avant l'apparition de symptômes cliniques ou encore après un traitement, lorsque le cancer semble avoir disparu mais peut subsister à l'état résiduel. Adapter les traitements à chaque tumeur. La biopsie liquide permet aussi d'adapter les traitements à chaque patient. En identifiant les mutations spécifiques d'une tumeur, il devient possible de choisir des thérapies ciblées mieux adaptée au profil génétique du cancer. Cette approche ouvre la voie à une médecine plus précise qui tient compte des caractéristiques biologiques propres à chaque maladie. Un autre avantage majeur est la possibilité de suivre l'évolution du cancer dans le temps. Si l'on répète des biopsies liquides avant, pendant et après un traitement, il est possible d'observer si les niveaux d'ADN tumoral diminuent ou augmentent. Ces informations peuvent aider à déterminer rapidement si une thérapie est efficace ou s'il faut l'ajuster, évitant ainsi des traitements inutiles et leurs effets secondaires. Quand le signal se perd dans le bruit. Si la biopsie liquide offre des perspectives prometteuses, elle pose aussi des défis importants sur les plans technologiques et méthodologiques. L'un des principaux obstacles est la détection de l'ADN tumoral au milieu d'un immense bruit de fond d'ADN normal. Les mutations recherchées sont parfois à la limite de la précision des machines de séquençage. Dans mon laboratoire, nous travaillons à réduire les erreurs techniques et à développer des algorithmes capables de faire la différence entre une véritable mutation cancéreuse et un faux signal généré par les technologies de séquençage, notamment grâce à des approches d'intelligence artificielle. Une seule prise de sang peut générer des téraoctets de données. Pour chaque patient, ce sont des milliards de fragments d'ADN à analyser, filtrer et comparer. La gestion et l'analyse de ces données massives exigent des outils bioinformatiques robustes, capables de traiter l'information avec rapidité et précision. La qualité de l'analyse dépend aussi de la préparation des échantillons. L'ADN circulant est souvent fragmenté et dégradé. Il faut le purifier, corriger les biais expérimentaux et le rendre exploitable par les technologies de séquençage avant même l'étape d'analyse informatique. Une révolution en construction. Pour moi, la biopsie liquide représente bien plus qu'un outil technologique. C'est une occasion de transformer la façon dont nous détectons et suivons le cancer. En combinant des méthodes moins invasives, une détection plus précoce et une médecine plus personnalisée, elle pourrait améliorer à la fois la qualité de vie des patients et leurs chances de survie. Avant de devenir une pratique courante, ces approches devront toutefois démontrer leur efficacité dans des études cliniques rigoureuses. Mais à mesure que les technologies de séquençage progressent, ce qui relevait hier de la science-fiction devient progressivement une réalité. Je suis convaincu qu'un jour, une simple fiole de sang pourrait jouer un rôle central dans la lutte contre le cancer. C'était une simple prise de sang pour traquer le cancer. Un texte d'Alexandre Pellant-Cheng paru le 6 avril 2026 dans La Conversation.
Je passe l'examen de la citoyenneté. Une chronique de Mélanie Fossourier, parue le 31 mai 2026 dans L'Eau Vive. Après 10 ans de demande de permis de travail, de résidence permanente et de photos non conformes, je me suis dit que ce serait sympa de fêter ma décennie sur le sol canadien par l'obtention de la nationalité. Pour ça, il faut obtenir au moins 15 sur 20 à l'examen de culture générale sur le Canada. Son nom venant de l'Iroquois « Kanata », qui signifie « village », j'en aurais vite fait le tour. « Tu verras, c'est une formalité », me disent les natifs. Voyant arriver par la poste le guide d'études de 60 pages pleines de dates et de noms, je comprends qu'on m'a raconté des fables. On m'a roulé dans la farine. Pour entrer dans la Confédération, va falloir montrer patte blanche. Je me relève les manches et entame les révisions. En premier lieu, géographie. Il s'agit de connaître les 10 provinces et 3 territoires qui composent le Dominion. Pour retenir ce mot bizarre, j'ai un moyen mémotechnique. Le pays est un domino super cute. Comme les colons, je commence par l'Est, mais première tuile, après Terre-Neuve et Labrador, les noms des autres provinces ne sont pas des marques de chiens. En plus, il y a des pièges. Saskatoon n'est pas la capitale de la Saskatchewan. Regina, un nom de pizza, à quoi ça rime? Je veux bien bosser, mais il faut que chacun fasse sa part. Pour l'histoire, ce n'est pas plus facile. Je croyais que McDonald's était sur les billets de 10 dollars parce que c'est le prix d'un hamburger dans le temple de la malbouffe. Pas du tout. C'était le premier ministre. Ça, mon correcteur d'orthographe n'aime pas. Il me met des vaguelettes bleues marines croyant que je bégaye de la main. Sache, cher correcteur automatique, qu'il y aura dans cette chronique de nombreux premiers. Et pas de ceux qui ne sont divisibles que par eux-mêmes et par un. Après La Fontaine, premier chef d'un gouvernement responsable, de l'eau a coulé sous les ponts. Lui, il est sur les billets de 5, deux fois moins qu'un hamburger. Il aurait pu finir sur une pièce de 5 centimes comme le castor, il s'en sort à bon compte. Je pose le livre et je retiens tout, très fier. Je m'endors sur mon laurier. La nuit porte conseil, des ministres, je poursuivrai l'étude au matin. Je me lève à l'aube, si on considère le plus à l'ouest des 5 fuseaux horaires qui découpent ce grand pays, d'un océan à l'autre. À Marie-Ousquet-Admar. Je suis bilingue. Avec mon mari, on devise gaiement, jusqu'à se marrer en récitant nos leçons. Qui a inventé l'insuline, le basketball, le cancer de la jambe? Des Canadiens! Chers presque compatriotes, que vous soyez de souche ou immigrants reçus, je vous invite à faire un test d'entraînement en ligne. Score à battre, 19 sur 20. Je crâne, mais en vrai, c'était une formalité. C'était « Je passe l'examen de la citoyenneté », une chronique de Mélanie Faussourier, parue le 31 mai 2026 dans l'Eau Vive.
De Mathieu à Mati, une histoire d'espoir. Un texte de Rosémée Autonne-Témorin, paru le 3 juin 2026 dans la presse. Mars 2019. Après un an à craindre la réaction des internautes, Mati se lance enfin sur YouTube. Ça faisait longtemps qu'une amie l'encourageait à raconter son histoire. Le problème, c'est que Mathieu Laroche fuyait les caméras et les appareils photos au point de refuser les photos de famille. Et bon, après des années à essuyer des insultes au sujet de son apparence, il se doutait bien que l'Internet ne lui réserverait pas que de la tendresse. Il reste que Mathieu, 30 ans, avait envie de se dévoiler. Ce jour de mars 2019, il a donc adopté le surnom « Mati » et refait une vingtaine de fois sa vidéo avant de la publier sur la chaîne YouTube qu'il venait de créer. Une chaîne nommée « Le petit singe ». « Quand j'étais jeune, dit Mathieu, on me traitait de face de singe. Je me suis dit que ce serait bon de me réapproprier une insulte pour la transformer en quelque chose de positif. » Mathieu Laroche est né avec une maladie orpheline. Cette anomalie génétique affecte ses os et sa formation crânio-faciale, en plus d'avoir des répercussions sur son élocution. Bref, il est en situation de handicap. Quand l'affaire Mike Ward contre Jérémy Gabriel a éclaté, Mati a eu envie de se prononcer. Sa chaîne YouTube, jusque-là confidentielle, a soudainement attiré des centaines de milliers de personnes. On venait de le découvrir. Sont ensuite entrés en scène Instagram, où Mati se décrit comme « un nain connu » et TikTok. C'est là que le créateur de contenu a trouvé sa signature en produisant des sketchs humoristiques, notamment pour illustrer sa réalité. Il nous explique, par exemple, qu'aller chercher un verre dans une armoire, c'est comme gravir une montagne. Qu'un appel au service de la clientèle, ça peut devenir bizarre quand on a une voix atypique. Et que le prix d'entrée d'un buffet ne reflète malheureusement pas du tout ce que son corps est capable d'ingérer. Mathieu reconnaît que certaines personnes en situation de handicap sont tannées de devoir nous éduquer, mais puisqu'il faut des gens pour donner dans la sensibilisation, il est heureux de se porter volontaire. De toute façon, ces sketchs dépassent la question des limitations. Mati aborde aussi des sujets universels comme cette étrange manie de verrouiller une porte d'auto à l'infini, coupable, ou de reprendre 10 fois un message vocal avant de l'envoyer à son destinataire. Bref, avec sa création de contenu, Mati nous rappelle qu'il est comme tout le monde, même si on l'a longtemps mis à part. Diplômé en administration, Mathieu a cogné à de nombreuses portes sans le moindre succès. « Il y a un moment, dit-il, où je ne voyais pas d'avenir pour moi. Je n'avais pas de travail ni d'amoureux et je vivais toujours chez ma mère. Il y a 3 ans, sa sœur, qui a la même maladie que lui, a lancé une idée. Et s'ils obtenaient leur permis de conduire? » Mathieu ne croyait pas la chose possible. Le processus a été complexe, mais ils l'ont fait. Avec le permis est venue une certaine autonomie. L'effet boule de neige a été spectaculaire. On suivit un premier appartement, un conjoint, un emploi dans un organisme LGBT et une confiance en soi grandissante. Aujourd'hui, Mathieu peut dire qu'il est heureux. Il ajoute du même coup qu'il se sait chanceux. Il peut se déplacer, il a tous ses membres, il peut parler. Certaines personnes se trouvent dans des situations beaucoup plus compliquées. D'ailleurs, en cette 30e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées, il aimerait qu'on se penche davantage sur l'accessibilité universelle. Trop souvent, on dit qu'un lieu est accessible, mais une fois sur place, les individus avec des enjeux de mobilité se heurtent à des marches, à un espace trop restreint pour leur fauteuil ou à des salles de bain ou des toilettes inadaptées. Comment est-ce encore possible aujourd'hui? Sur le plan intime, Mati se donne pour mission d'encourager la présence de personnes handicapées dans les médias. Selon l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2022, 21% de la population québécoise, âgée de plus de 15 ans, vit avec au moins une incapacité. Où sont ces gens dans nos écrans? En plus de prendre sa place en ligne, Mathieu a joué dans la comédie « Sans rendez-vous » et participé à la série documentaire « Amour sans limite ». Il a adoré ses projets, mais la question qu'il se pose avec raison, c'est: à quand des personnages handicapés dont la quête n'est pas centrée sur leurs conditions? En attendant, Mati a aujourd'hui 37 ans, un permis de conduire, un appartement, un chum et près de 400 000 abonnés sur TikTok. Avec ce présent auquel il n'avait jamais osé rêver, comment entrevoir l'avenir? Je suis en période de réflexion, qu'il me répond. J'ai des projets en tête, mais on verra. La vie nous amène là où on en a besoin. J'ai hâte de découvrir la suite. Cet espoir a de quoi nous réjouir. C'était de Mathieu à Mati, une histoire d'espoir, un texte de Rose-Aimée Autonne-Témorin, paru le 3 juin 2026 dans La Presse.
Votre cerveau ne serait pas vraiment adulte avant 30 ans, ce que révèlent les nouvelles recherches en neurosciences. Un texte de la rédaction paru le 15 juin 2026 dans Futura Science. À quel âge le cerveau est-il vraiment adulte? Pas à 25 ans, contrairement à ce qu'on entend partout. Une étude publiée dans Nature Communications bouscule le calendrier neuronal établi depuis des décennies. La réponse, appuyée sur l'analyse de plus de 4200 cerveaux, pointe vers un âge bien plus tardif, 32 ans. L'idée que le cerveau finit de se développer à 25 ans s'est imposée comme une certitude biologique. Elle explique les hésitations de la vingtaine, elle rassure les parents, elle structure même certaines politiques publiques. Pourtant, des travaux récents de neurosciences remettent sérieusement en question ce seuil symbolique. Cette découverte, parue fin 2025, mérite qu'on s'y attarde. Elle change la façon de comprendre la maturité cérébrale. Ce que révèle vraiment la maturation du cerveau humain. Tout commence bien avant 25 ans. Dès la fin de l'adolescence, le cerveau traverse une phase de réorganisation profonde, documentée depuis les premières grandes études d'imagerie cérébrale menées à la fin des années 1990. Jay Geed et ses collègues, dans des travaux publiés dans Nature Neuroscience, ont montré que la matière grise continue d'évoluer longtemps après l'enfance, avec des vitesses très différentes selon les régions. Certaines zones sensorielles arrivent à maturité tôt. D'autres, bien plus stratégiques, prennent leur temps. Le cortex frontal, responsable de la planification, du contrôle des impulsions et de la prise de décision, figure parmi les dernières à se stabiliser, comme l'ont mis en évidence les scans longitudinaux dirigés par Nitin Gokhte dans les Proceedings of the National Academy of Sciences. Concrètement, cela explique pourquoi un individu de 22 ans peut raisonner brillamment sur un sujet abstrait tout en prenant des décisions franchement impulsives dans sa vie quotidienne. Les réseaux ne sont pas encore coordonnés. Ce processus fonctionne selon trois étapes distinctes. 1. L'élagage synaptique. Le cerveau supprime les connexions inutiles pour gagner en efficacité. 2. La myélinisation. Les fibres nerveuses se gainent progressivement, accélérant la transmission des signaux. 3. L'intégration des réseaux. Les différentes régions apprennent à mieux communiquer entre elles. C'est précisément cette troisième étape qui dure le plus longtemps, bien au-delà du cap des 25 ans. 32 ans, le tournant que la science vient de confirmer. L'étude d'Alexa Mousselet et de ses collaborateurs, publiée dans Nature Communications fin 2025, est la plus ambitieuse réalisée sur ce sujet à ce jour. En analysant les réseaux cérébraux de 4200 individus âgés de la naissance à 90 ans, l'équipe a identifié plusieurs âges charnières dans la trajectoire du cerveau. Le plus marquant, un pic d'organisation autour de 32 ans. Jusqu'à cet âge, le cerveau optimise activement ses connexions. Les informations circulent de façon plus rapide, plus directe, avec moins d'intermédiaires entre les régions spécialisées. Les neuroscientifiques désignent cette architecture sous le nom d'organisation en petit monde, un modèle particulièrement efficace pour le raisonnement complexe et l'adaptation aux situations nouvelles. Après 32 ans, la dynamique change. Le cerveau stabilise ses circuits les plus sollicités plutôt que d'en développer de nouveaux. Ce n'est pas un déclin, mais une spécialisation assumée. La comparaison est parlante. Pensez à un réseau routier qui cesse d'ouvrir de nouvelles voies pour mieux entretenir les axes déjà existants. Ce que cela implique concrètement ? Les réorientations professionnelles tardives, les trajectoires de vie non linéaires dans la vingtaine, les difficultés à se stabiliser avant 30 ans ont une base neurologique réelle, pas seulement culturelle ou économique. Exiger une maturité décisionnelle totale à 25 ans revient à ignorer ce que la biologie cérébrale nous dit aujourd'hui. Le cerveau ne grandit pas d'un coup. Il se construit par couches et la dernière se pose bien après le cap qu'on croyait décisif. C'était « Votre cerveau ne serait pas vraiment adulte avant 30 ans », ce que révèlent les nouvelles recherches en neurosciences. Un texte de la rédaction paru le 15 juin 2026 dans Futura Science.
Pénicilline. Il vient d'apprendre qu'il n'est pas allergique. Un texte d'Audrey Ruel-Manceau paru le 6 juin 2026 dans le Journal de Montréal. Un jeune homme a évité la pénicilline pendant 25 ans, convaincu d'être allergique. Comme lui, la quasi-totalité des personnes qui se croient allergiques à la pénicilline ne le seraient pas, selon une vaste étude internationale à laquelle participent des chercheurs québécois. Il y avait toujours cette question. Si je suis inconscient et incapable de dire que j'ai une allergie à la pénicilline, qu'est-ce qui m'arriverait ? Confie Calvin Lebrun, étudiant de 27 ans. Diagnostiqué bébé, il n'avait jamais remis cette étiquette en doute jusqu'à récemment. Après des tests dans le cadre de l'étude, il a découvert qu'il n'avait pas d'allergie. « Aujourd'hui, j'en suis libre. C'est une paix d'esprit, » dit-il. Un problème mondial. L'histoire de Calvin est loin d'être unique. Au Québec, comme ailleurs, une personne sur 10 se croit allergique à la pénicilline. Dans 95% des cas, ce diagnostic serait erroné. Beaucoup de gens portent cette étiquette, ellipse, souvent basée sur aucune donnée objective, explique la docteure Anna Kopaisku, allergologue, immunologue et chercheuse du Centre universitaire de santé McGill, CUSUM, impliquée dans le projet. L'allergie est souvent identifiée tôt, sans test ni remise en question. Des symptômes liés à la maladie elle-même ou aux effets secondaires du médicament peuvent facilement être confondus avec une réaction allergique. Beaucoup de réactions ne sont même pas compatibles avec une allergie, ajoute la Dr. Copaiscu, citant les maux de ventre ou les éruptions cutanées. Solution plus chère et moins efficace. La pénicilline est souvent l'antibiotique de première ligne. Les patients considérés allergiques doivent recevoir des traitements alternatifs et les conséquences sont multiples, physiques, financières et psychologiques. Il y a aussi un impact sur les patients et sur le réseau de la santé. Ces antibiotiques sont plus coûteux, parfois moins efficaces et associés à plus de complications, précise la médecin. Dans certains cas, cela peut même entraîner une hospitalisation, notamment lorsque l'antibiotique de remplacement doit être administré par intraveineuse. Calvin Lebrun l'a vécu. Salle d'urgence pour un streptocoque, hospitalisation pour une mononucléose, amygdalite complexe à traiter. Il y avait toujours ce doute. « Si j'ai une infection grave, je ne peux pas être traité comme tout le monde », dit-il. Vérifiez avant d'éviter. Si vous faites partie du 10% de la population qui se croit allergique, la première étape, c'est d'en parler à son médecin, conseille la Dr. Copaiscu. Parfois, une simple discussion suffit. Sinon, une référence à un allergologue permet de confirmer ou non le diagnostic. Tester l'allergie. Une application mobile testée dans le cadre de l'étude a démontré son efficacité pour aider les médecins à évaluer le risque d'allergie chez des patients hospitalisés. On entre les symptômes et ça nous permet de déterminer si le risque est faible, modéré ou élevé, explique la Dr. Copaiscu. Dans plusieurs cas, cet outil permet de retirer l'étiquette d'allergie sans être invasif. En chiffres, 10% de la population croit être allergique à la pénicilline. 95% ne le serait pas réellement. 10 000 patients participent à cette étude. 40 hôpitaux dans 8 pays sont impliqués. C'était Pénicilline. Il vient d'apprendre qu'il n'est pas allergique. Un texte d'Audrey Ruel-Manceau paru le 6 juin 2026 dans le Journal de Montréal.